Décryptage, Marie Cazadebé.
Le projet de mur à la frontière mexicaine dresse pour l'instant surtout un mur entre Donald Trump et le Congrès américain, lequel cédera le premier. Cela fait près de 3 semaines que l'administration fédérale est en partie bloquée. Le président américain refuse de ratifier certains budgets. Tant que le Congrès bloque, lui, les 5,7 milliards de dollars nécessaires à la construction d'une frontière entre les États-Unis et le Mexique.
This is a humanitarian crisis, a crisis.
C'est une crise humanitaire, une crise du cœur et une crise de l'âme. Les démocrates du Congrès ont refusé de reconnaître la crise et ont refusé de fournir à nos courageux agents à la frontière les outils dont ils ont désespérément besoin pour défendre nos familles et notre nation.
Extrait d'une allocution exceptionnelle retransmise en direct hier soir du bureau Oval, la Maison Blanche précise ce mercredi que Donald Trump n'exclut pas le recours à l'état d'urgence pour contourner le Congrès. Mais pourquoi tenir tant à se couper du Mexique? À quelle réalité migratoire ce mur est-il censé répondre? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Jean-Éric Branin.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes chercheur au centre Thucydide et à l'IRIS. Vous avez publié Trumpland, portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva. Et nous sommes aussi au téléphone avec Hélène Roux. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheuse et journaliste et spécialiste de l'Amérique centrale. L'Institut de recherche américain Pew, qui se repose sur des statistiques gouvernementales de 2016, estime que les États-Unis comptent 10,7 millions d'immigrés clandestins. Jean-Éric Branin, comment a évolué ce chiffre ces dernières années? Est-ce qu'il est en hausse ou plutôt en baisse?
Bah écoutez, par définition, c'est très difficile de compter des clandestins. Donc, ce sont des projections en réalité. Non, ce chiffre ne bouge pas. Il est entre 10 et 11 millions. Ce sont toutes les statistiques et toutes les études un petit peu sérieuses. Comment est-ce qu'on le calcule? En réalité, on regarde la main-d'œuvre qui est utilisée de façon clandestine, mais on voit bien, on peut évoluer par rapport, ne serait-ce qu'à ce qui est ramassé dans les champs, enfin ce genre de choses. On arrive à ce chiffre au final sur les différents emplois. Tout le monde n'a pas ce chiffre-là, bien sûr. D'autres se servent d'autres chiffres. On peut se souvenir pendant la campagne, Donald Trump, lui, estimer la même chose à 30 millions de clandestins. Encore une fois, comme ce sont des clandestins, on peut dire ce qu'on veut, pourquoi pas 500 millions si on veut. Ce qu'il avait fait, lui, c'était une règle assez simple, c'était symbolique, 10% de la population, on est à 365 millions d'habitants, donc on était grosso modo à 10%, ce qui était très parlant et très marquant pour une campagne.
Alors voilà, des chiffres marquants par rapport à des statistiques quand même assez sérieuses, et cet institut, lui, parlait d'un pic en 2007 à 12,2. Selon l'Institut, en tout cas, le chiffre de clandestins aux États-Unis aurait légèrement baissé.
Oui, il a légèrement baissé parce qu'on a un solde négatif depuis cette date-là. Ça veut dire qu'il y a plus de Mexicains en particulier qui repartent que ceux qui arrivent. Donc ça fait un petit peu baisser. Ça s'explique par une hausse du niveau de vie au Mexique, par différentes sortes de choses. La vie s'est améliorée quand même grandement au Mexique et qui a fait que c'était moins attractif aux États-Unis. On était aussi dans la crise, donc c'était un peu plus compliqué de venir travailler aux États-Unis.
Alors Donald Trump dénonce souvent la passivité de ses prédécesseurs, Barack Obama, pour ne prendre que le dernier. Était-il beaucoup plus laxiste sur la question de l'immigration clandestine?
Oh, c'est d'une injustice terrible de le dire comme ça, bien évidemment, puisque c'est une question qui est le caillou dans la chaussure des États-Unis depuis tellement longtemps, cette question de l'immigration. Alors on peut refaire toute l'histoire, expliquer que ce pays s'est construit à partir de l'immigration, que les premiers puritains qui arrivent vont amener eux-mêmes des immigrants, etc. C'est une boule de neige. On a des grandes phases migratoires très importantes. On a la fin du 19e siècle avec l'arrivée de l'Europe du Sud, puisque jusque-là, c'était surtout des migrants d'Europe du Nord qui peuplaient ce qui forme aujourd'hui les États-Unis. Puis ensuite, on a au début du 20e siècle, les années 20. Là, on a un pic énorme. C'est vraiment une montée. 1 million d'émigrants par an, ça devient insupportable sur une population qui compte 22 millions d'habitants. Forcément, ça se voit, ça fait de l'effet et la réaction va être très violente, beaucoup plus violente qu'aujourd'hui avec Donald Trump. Je pense qu'ils avaient eu l'argent pour faire le mur à l'époque, ils l'auraient fait dans tous les sens. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils font par la loi. Ils vont mettre des quotas en 1921, durcis en 1924. Pour rentrer aux États-Unis, il faut avoir un grand-père qui habitait déjà aux États-Unis, un grand-père, une grand-mère, un grand-parent qui habitait déjà aux États-Unis. Ça règle le problème pour beaucoup de pays du monde et ça va stopper les migrations légales. Donc, c'est l'immigration clandestine qui va prendre le dessus. Et à partir de cette date, on a un arrêt de l'immigration jusqu'aux années 60. Mais les Américains du Sud, eux, vont continuer à venir parce qu'ils l'ont toujours fait, parce que les États-Unis du Sud ont été à un moment mexicains, il faut quand même le dire, sont des terres qui, pour eux, sont naturelles. Et donc, ils vont venir et repartir sans arrêt, et comme ils l'ont toujours fait.
C'est la question que j'allais vous poser, Jean-Yves Brana, sur les 10 millions et quelques d'immigrés clandestins estimés. Hein. D'où viennent-ils ? Est-ce qu'ils viennent surtout alors donc d'Amérique latine, d'Amérique du Sud ?
Ah oui, ils viennent en très grande partie d'Amérique latine, c'est sûr, mais depuis les années 60, depuis la loi de 1965 qui a autorisé le regroupement familial, il y a une autre immigration. Les Américains ont été très surpris après cette loi de découvrir tout d'un coup ils avaient beaucoup de Chinois. Mmh. Alors les Chinois étaient là depuis un petit moment. On les a fait venir à la fin du 19e siècle pour construire le pays, pour faire des trains. Et puis ils étaient très discrets. Ce n'étaient que des hommes qui avaient été déracinés, qui ne faisaient pas de bruit, qui restaient entre eux. Et une fois que cette loi les a autorisés à faire venir leur famille, eh ben ils l'ont fait. Mmh. Donc femmes et enfants sont arrivés en masse. Aujourd'hui, la part de l'immigration asiatique compte pour 45% du total. Donc c'est énorme, hein. C'est très grand.
Mais là, on parle d'une immigration légale.
On parle d'une immigration légale, voilà. Oui.
Mais sur l'immigration clandestine, puisque je voudrais qu'on se concentre sur celle-ci.
Bien sûr, l'immigration clandestine vient principalement d'Amérique du Sud, tout simplement parce que c'est la porte d'entrée. Donc c'est la chose la plus facile à faire. On remonte effectivement du Canada. Il y a assez peu d'intérêt d'aller émigrer aux États-Unis.
Oui,
le niveau de vie est à peu près le même. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut venir en bateau, en avion. Les ports d'entrée sont étroitement contrôlés, donc c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, c'est là la porte d'entrée.
Alors, je vais me tourner vers Hélène Roux. Quels sont les pays que l'on retrouve dans cette immigration clandestine aux États-Unis ? Quels pays ? Et puis, pour quelles raisons ces pays-là sont-ils représentés ?
Alors, on retrouve évidemment le Mexique, qui est un grand fournisseur, disons, de migration aux États-Unis, mais aussi beaucoup donc les pays d'Amérique centrale, qui eux traversent des crises périodiques, et puis surtout une situation économique compliquée, et puis aussi une situation de grande dépendance par rapport aux États-Unis. Donc il n'est pas étonnant que les pays d'Amérique centrale se tournent vers les États-Unis pour migrer. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a depuis quelques années, provenant d'Amérique du Sud, aussi une migration africaine, qui sont des gens qui sont arrivés soit par le Brésil, soit par l'Équateur, et qui remontent vers les États-Unis. Mmh. Certains d'ailleurs ayant travaillé au Brésil, notamment quand il y a eu les grandes œuvres et les grandes réalisations, notamment pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, le Brésil a fait venir des travailleurs africains qui après ont été remerciés et s'acheminent donc maintenant aussi vers les États-Unis.
Alors tout récemment, l'actualité a braqué ces caméras, ces appareils photos sur la situation des Honduriens avec cette caravane de plusieurs milliers de personnes qui ont rejoint en décembre le Mexique avec pour objectif les États-Unis. Parole recueillie à Tapachula.
Jusqu'à maintenant, je n'étais jamais sorti du Honduras. Je veux continuer à avancer, mais je ne sais pas jusqu'à quand je vais tenir. Ma mission, c'est vraiment d'arriver jusqu'à la frontière.
La sécurité sociale ne fournit plus aucun médicament. J'ai un baccalauréat qui ne me sert à rien car je ne trouve pas de travail. La situation actuelle au Honduras est vraiment difficile. Nos enfants meurent de faim. Nous ne partons pas par volonté, c'est la situation qui nous y oblige.
Jean-Yves Brana, pourquoi Donald Trump semble centrer vraiment son discours sur l'immigration des Latinos, comme si aucune autre finalement n'était plus grave ?
Parce que il y a un problème important qui guette les États-Unis, c'est un changement de démographie. Dans l'ensemble des États du sud des États-Unis, on a une transformation de la population. Par exemple, aujourd'hui, les Blancs sont minoritaires en Californie, les Hispaniques sont majoritaires, et la deuxième plus grande représentation, ce sont les Asiatiques. On voit que ça a des conséquences. Alors, encore pour l'instant, pas complètement sur le plan politique, mais ça commence quand même, à savoir que les Hispaniques ne s'inscrivent pas, ne s'impliquent pas dans la vie politique, mais quand ils commencent à être très nombreux, ils finissent par le faire. Ne serait-ce que parce que dans certaines villes, certains quartiers, ils sont tout seul, il faut bien qu'il y ait aussi des élus parmi eux. Que ce soit le Nouveau-Mexique, que ce soit l'Arizona, que ce soit le Texas, que ce soit la Louisiane qui commence aussi, la Floride, bien ça a des conséquences et on le voit. On a vu les recomptages en Floride incessants depuis 2000, à chaque fois ça se joue à rien, alors que les Hispaniques ne participent quasiment pas encore aux élections. Mais ils sont là, ils sont présents. Au Nouveau-Mexique, cette fois-ci, ça a eu des conséquences puisque c'est les démocrates qui tiennent l'État. En Arizona, ça s'est retourné cette fois-ci, ils ont perdu le sénateur, la prochaine fois, ils pourraient bien perdre le deuxième. Et surtout, le Texas, qui est à deux doigts de basculer. Or, s'il perd le Texas, c'est 38 grands électeurs, c'est-à-dire que si les démocrates gagnaient le Texas, on peut dire que les républicains n'auraient plus de président avant très longtemps.
Alors, pour vous suivre, Jean-Yves Brana, c'est la peur de la majorité blanche de disparaître ou bien la peur d'une majorité politique de disparaître?
Eh bien, les deux, mon capitaine. En réalité, les deux se croisent parce que il y a cette peur, effectivement, d'une base conservatrice et d'une base blanche plutôt vieillissante du centre de l'Amérique qui se sent submergée dans ce qu'elle était en tant qu'élite américaine et qui, effectivement, va être dépassée puisqu'à partir de 2040, il est estimé que les blancs ne seront plus majoritaires aux États-Unis. En tout cas, ce sont les perspectives. Et il y a, effectivement, les retrouvailles avec cette réalité politique qui fait que les républicains perdent du terrain inéluctablement.
Alors face à cette donnée, Donald Trump donc semble avoir la solution, c'est un mur. Hélène Roux, quelle serait selon vous l'efficacité d'une construction à la frontière si Donald Trump l'obtenait? Est-ce que vraiment ça couperait court à cette immigration venue, je vous le disais, surtout d'Amérique centrale?
Alors moi je ne pense pas, et d'ailleurs c'est pas, enfin il y a déjà quand même des grands pans et passer la frontière c'est déjà compliqué, hein. Il y a des barbelés, il y a le désert, etc. Donc et ça n'a jamais empêché les gens de migrer et de commencer leur voyage. Donc je ne pense pas que ça va vraiment.
Et ça veut dire quoi finalement, que ça ouvrirait une autre voie? Souvent on dit en Europe, quand on ferme une voie, une autre s'ouvre face à la nécessité de fuir.
Il y a toujours la possibilité de passer par la mer, par exemple, hein. Bon, on le voit aussi en Europe, hein. Disons que les États-Unis ont une côte commune avec le Mexique. Il faut se rappeler. Puis, bon, on l'a vu, par exemple, avec les Caribéens, notamment les Haïtiens, qui arrivaient à un moment, ou les Cubains, qui sont arrivés par la mer. Hein. Il faut le rappeler. Mais surtout, je pense que ça va, bon, que le mur se fasse ou pas, en tout cas, il va y avoir des pourparlers avec le gouvernement mexicain, entre le gouvernement mexicain et le gouvernement des États-Unis.
Alors, je vous propose justement d'aller au Mexique à la rencontre de deux migrants honduriens rencontrés à Tijuana, donc ville frontière au Mexique, donc juste de l'autre côté de la frontière américaine.
Si par désespoir on décidait d'entrer illégalement, en escaladant le mur par exemple, on ferait une croix sur nos droits une fois aux États-Unis. Comparé à la demande d'asile, les inconvénients dépassent les avantages.
C'est stressant car tout d'un coup, maintenant, il faut s'inscrire sur une liste et attendre, sans savoir ce qui va se passer. Certains vont demander l'asile ici au Mexique et d'autres vont prendre un passeur, d'autres vont passer autrement. Parce que parmi ceux qui vont demander l'asile, certains seront expulsés quand même.
Jean-Éric Brunin, est-ce que vous pensez que le problème de l'immigration sud-américaine risque de se reporter sur le Mexique si un mur était construit entre les deux pays?
Alors, je dois vous dire que je ne crois pas un instant qu'un mur sera construit entre les deux pays avant la fin du mandat de Donald Trump, qu'il finisse juste ce mandat ou qu'il soit réélu et qu'il fasse 4 ans de plus. Physiquement, c'est impossible. Chronologiquement, c'est impossible. En plus de cela, il y a énormément de terres qui ne sont pas des terres publiques, qui appartiennent à des particuliers ou qui appartiennent, par exemple, aux indigènes indiens à qui on a donné ces terres par le fait de traiter. Pour faire sauter tout ça, ces verrous-là, il faut des dizaines d'années. C'est horriblement compliqué sur le plan juridique. Ensuite, comme l'a dit Hélène, effectivement, il y a déjà une frontière naturelle. Il y a le Rio Grande, il y a le désert, et puis pour le reste, la frontière existe. Donc, je ne pense pas, d'abord, je tiens à dire, est-ce que ce mur sera construit. Maintenant, si jamais, on l'imagine, il y a un mur qui sort de terre et qui ferme complètement la frontière, rien n'a jamais empêché les gens d'émigrer. On va prendre un exemple qui est facile à comprendre. Les Français qui veulent émigrer aux États-Unis utilisent à peu près tous le même stratagème. S'ils veulent être clandestins, ils partent avec un visa touriste. Une fois que le visa touriste est expiré, ils restent sur place.
Mais alors justement, par exemple, Hélène Roux, on imagine que s'il y a autant de clandestins, c'est aussi que le robinet à visa et à demande d'asile est fermé aux États-Unis. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir justement des visas ? Je suppose que la crainte, c'est ça, c'est qu'ensuite les gens s'y installent et y restent aux États-Unis.
Oui, alors c'est compliqué d'obtenir des visas. Cela dit, il y a eu quand même tout un tas de programmes, et notamment, par exemple, pour les Honduriens, il y a eu un programme qui a fait suite à l'ouragan Mitch en 1998 et qui donnait, disons, un certain nombre d'avantages aux personnes qui, à l'époque, sont venues aux États-Unis. Et or, actuellement, ce programme et cet accord, ces avantages sont remis en question, et les gens qui sont venus donc en 98 sont menacés d'être renvoyés chez eux. Donc vous imaginez, 98, ça fait longtemps.
On entend en tout cas qu'il faut une catastrophe naturelle pour que tout d'un coup les portes s'ouvrent à ces populations.
Oui. Et puis il y a aussi les raisons politiques, évidemment, historiques avec les Cubains, mais aussi avec les Nicaraguayens. Encore que actuellement, même avec la crise actuelle qui secoue le Nicaragua, on sait que des gens ont été qui ont demandé l'asile ont été sont en instance d'ailleurs d'être renvoyés au Nicaragua, même dans cette situation critique que vit le pays actuellement.
Jean-Éric Brana, il n'y aura peut-être pas de mur, mais pour l'instant le mur, il semble un peu administratif. On entendait tout à l'heure un Hondurien parler d'inscription sur des listes à Tijuana. Est-ce que c'est ça qu'autorise désormais le plan Remain in Mexico, cet accord qui a été remis en question par Washington? Ils avaient l'air de démentir Mexico aussi, mais est-ce qu'il y a justement un accord qui permet aux demandeurs d'asile sud-américains de faire cette demande, mais côté Mexique?
Oui, c'est pas une nouveauté, hein. C'est pas Trump qui a inventé ça. Il y a même un mot en anglais qui permet de différencier les réfugiés qui font une demande sur le sol américain, qui sont des asylees, et ceux qui font leur demande de l'autre côté de la frontière, qui sont des refugees. Donc on a vraiment déjà cette différenciation, même dans la sémantique. C'est pour dire si c'est quelque chose d'ancien et qui est inscrit. Maintenant, c'est vrai que Donald Trump a poussé pour que ça se fasse de façon plus formelle et plus fréquente. Donc ces réfugiés en particulier, cette caravane, sont restés à Tijuana, ils sont restés bloqués, ils ne peuvent pas passer, ils font les demandes depuis Tijuana, ce qui veut dire que si ils sont refusés, eh bien c'est le problème du Mexique de savoir s'il veut les renvoyer au Honduras ou pas, enfin c'est le problème du Mexique, donc c'est plus le problème de Donald Trump en réalité. Ceux qui sont en réel danger, puisque ce sont les textes internationaux, seront admis aux États-Unis. C'est le principe du droit d'asile. Seulement, c'est vrai que la plupart d'entre eux ont du mal à prouver qu'ils sont réellement en danger, ou font des erreurs parce que ils savent pas comment remplir ces papiers. Et s'ils expliquent que c'est parce qu'ils avaient faim qu'ils sont venus, ils sont rejetés. Ça suffit à être rejeté. Voilà, c'est ce genre de choses, et souvent ils ne savent pas comment faire.
Une dernière question pour conclure, il nous reste peu de temps, mais Donald Trump a remis en cause, en question plutôt, le droit du sol, c'est-à-dire la garantie de la nationalité américaine à toute personne née sur le territoire. Ça fait un siècle et demi que c'est garanti aux États-Unis. Jean-Éric Brana, est-ce que vous pensez que le président est capable, a les moyens aussi, de transformer ce point-là ?
En tout cas, c'est une loi qui est actuellement au Congrès, qui est discutée depuis juin dernier, donc cette loi existe réellement. Il faudrait voir s'il arrive à trouver une majorité. Alors, je vous dirais que pour les deux ans qui viennent, non, puisque sur la Chambre, elle vient de changer de couleur, et que bien sûr les démocrates ne passeront jamais une loi pareille. Maintenant, s'il était réélu et qu'il récupérait les deux chambres, tout est possible, parce qu'on voit que les républicains se sont quand même bien rangés derrière lui au moment des dernières élections. On peut imaginer que ce serait amplifié aux élections prochaines.
On sent en tout cas qu'il souhaite vraiment changer finalement toute la philosophie de l'immigration aux États-Unis.
Absolument, il cherche à faire quelque chose qui existe chez le premier voisin, au Canada. C'est exactement l'idée, c'est une immigration choisie, dite de qualité. On ne laisse venir que ceux dont on a besoin, et les autres, on ne laisse pas rentrer.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Trumpland, Portrait d'une Amérique divisée aux éditions Priva. Merci beaucoup à la journaliste Hélène Roux qui était au téléphone avec nous. Tout de suite, un point sur l'actualité africaine.